James Joyce, Dubliners. 1. Les sœurs. Il n'y avait plus aucun espoir pour lui cette fois. C'était sa troisième attaque. Nuit après nuit, j'étais passée devant la maison. C'était alors les vacances, et j'avais observé le rectangle éclairé de la fenêtre. Et nuit après nuit, je l'avais trouvé éclairé de la même manière, faiblement et constamment. S'il avait été mort, pensais-je, j'aurais vu le reflet des bougies sur le store assombri, car je savais qu'on avait coutume de mettre deux bougies autour de la tête d'un cadavre. Il m'avait souvent dit « je ne resterai pas longtemps en ce monde », et j'avais trouvé ces mots stupides. Maintenant, je sais qu'ils étaient vrais. Chaque nuit, alors que je levais les yeux vers la fenêtre, je me disais doucement à moi-même le mot « paralysie ». Ce mot avait toujours sonné étrangement à mes oreilles, comme le mot « gnomon » dans Euclide et le mot « simonie » dans le catéchisme. Mais maintenant il m'apparaissait comme le nom de quelque entité maléfique et coupable qui me remplissait de crainte, et cependant j'aspirais à m'en approcher et à regarder son œuvre mortelle. Le vieux Cotter était assis près du feu, en train de fumer, lorsque je me présentais en bas pour le souper. Tandis que ma tante me servait mon porridge, il dit, comme s'il revenait sur une remarque qu'il avait déjà faite auparavant. « Non, je ne dirais pas qu'il était précisément... Mais il y avait quelque chose de bizarre, quelque chose de troublant en lui. Je vais vous dire ce que j'en pense. » Il commença à tirer sur sa pipe, arrangeant sans nul doute son opinion avant de l'exprimer. Fatigant vieux fou. Quand nous l'avons rencontré au début, il était assez intéressant, parlant d'alambic et de fût. Mais je me suis vite lassée de lui et de ses histoires interminables au sujet de la distillerie. « J'ai ma propre théorie à ce sujet, » dit-il. « Je pense qu'il s'agissait de l'un de ces... cas particuliers, mais c'est difficile à dire. » Il reprit une bouffée de sa pipe, sans nous livrer sa théorie. Mon oncle surprit mon regard et me dit « Eh bien, ainsi ton vieil ami nous a quittés. Tu seras triste de l'apprendre. Qui ?» dis-je. Le père Flynn. Il est mort ? Mr. Cotter, ici, vient juste de nous le dire. Il passait devant la maison. Je me savais observer aussi, je continuais à manger comme si ces nouvelles ne m'avaient pas intéressée. Mon oncle expliqua au vieux Cotter. Le gamin et lui étaient de grands amis. Le vieux lui a appris beaucoup, figurez-vous. Et ils disent qu'il formait de grands vœux pour lui. Que Dieu ait pitié de son âme, dit pieusement ma tante. Le vieux Cotter me regarda pendant un moment. Je sentis que ses petits yeux noirs de fouine m'examinaient, mais je ne voulais pas lui donner satisfaction en levant les yeux de mon assiette. Il retourna sa pipe et finalement cracha grossièrement dans l'âtre. « Je n'aimerais pas que mes enfants, dit-il, aillent trop parler à un homme comme lui. »
« Que voulez-vous dire, Mr. Cotter ? » demanda ma tante.
« Ce que je veux dire, dit le vieux Cotter. C'est que c'est pas bon pour les enfants. Mon idée est, faut qu'un jeune garçon court les chemins et s'amuse avec d'autres jeunes garçons de son âge, et n'aille pas... Pas vrai, Jack ?
C'est aussi mon principe, dit mon oncle, qu'il apprenne à se débrouiller dans la vie. C'est ce que je répète toujours à ce rose-croix, là. Prendre l'exercice. Moi, quand j'étais mioche, je prenais un bain froid tous les matins, et été comme hiver, et c'est ce qui me fait tenir, maintenant. L'éducation, c'est bien joli. « Mr. Cotter veut peut-être de ce gigot, » ajouta-t-il à l'adresse de ma tante.
« Non, non, pas pour moi, » dit le vieux Cotter.
Ma tante amena le plat du buffet et le posa sur la table.
« Mais pourquoi pensez-vous que ce n'est pas bon pour les enfants, Mr. Cotter ? » demanda-t-elle.
« C'est pas bon pour les enfants, » dit le vieux Cotter, « parce que leur esprit est facilement impressionnable. Quand les enfants voient des choses comme ça, vous savez, ça leur fait un effet... »
Je me remplis la bouche de porridge de peur de laisser transparaître ma colère. Fatigant vieil imbécile au nez rouge. Il était tard lorsque je m'endormis. Bien que je fusse en colère contre le vieux Cotter qui avait parlé de moi comme d'un enfant, je m'attachais à essayer de trouver un sens à ces phrases inachevées. Dans l'obscurité de ma chambre, j'imaginais que je voyais à nouveau la lourde face grise du paralytique. Je rabattis les couvertures par-dessus ma tête et essayais de penser à Noël. Mais le visage gris me poursuivait toujours. Il murmurait, et je compris qu'il désirait confesser quelque chose. Je sentis mon âme descendre dans une région agréable et dépravée, et là encore je le retrouvais qui m'attendait. Il commença sa confession d'une voix murmurante, et je me demandais pourquoi il souriait continuellement et pourquoi ses lèvres étaient si humides de salive. Mais alors je me souvins qu'il était mort de paralysie, et je sentis que moi aussi j'étais en train de sourire légèrement, comme pour absoudre la simonie de son péché. Le matin suivant, après le petit déjeuner, je descendis pour regarder la petite maison dans Great Britain Street. C'était une modeste boutique qui affichait l'enseigne vague « Draperie ». En fait de draperie, il y avait surtout des chaussons d'enfants et des parapluies, et les jours ordinaires, une note était accrochée à la fenêtre avec écrit « Parapluie recouvert ». Aucun écriteau n'était cependant visible pour le moment, car les volets étaient clos. Un bouquet de deuil était accroché au marteau de la porte avec un ruban. Deux pauvres femmes et un garçon du télégramme étaient en train de lire la carte épinglée sur le crêpe. J'approchai également et lus. 1er juillet 1895, le révérend père James Flynn, anciennement attaché à la paroisse de Sainte-Catherine, Meath Street, âgé de 65 ans, R.I.P. La lecture de la carte me persuada qu'il était mort, et il était troublant de me retrouver à le vérifier. S'il n'avait pas été mort, je serais allée dans la petite pièce sombre derrière l'échoppe pour le retrouver dans son fauteuil près du feu, à demi enseveli dans sa houppelande. Peut-être ma tante m'aurait-elle donné un paquet de high toast pour lui, et ce présent l'aurait tiré de sa somnolence médicamenteuse. C'était toujours moi qui vidais le paquet dans sa tabatière noire, car ses mains tremblaient trop pour lui permettre de le faire sans en renverser la moitié par terre. Même quand il levait sa grande main tremblante jusqu'à son nez pour priser, de petits nuages de poudre s'échappaient de ses doigts et tombaient sur le devant de sa houppelande. C'était peut-être ses constantes douches de tabac qui donnaient à ses anciens ornements sacerdotaux leur vert fané, car le mouchoir rouge, noirci comme il l'était toujours par les taches de tabac de la semaine dont il se servait pour brosser les grains tombés, était plutôt inefficace. J'éprouvais le désir d'entrer et de le regarder, mais je n'eus pas le courage de frapper à la porte. Je m'en allais lentement, du côté ensoleillé de la rue, lisant toutes les affiches de théâtre aux vitrines des magasins, tandis que je marchais. Je trouvais étrange que ni moi ni le jour ne paraissions d'humeur chagrine, et je fus même embarrassée de découvrir en moi une sensation de liberté, comme si je venais d'être libérée de quelque chose par sa mort. Je réfléchis à ceci parce que, comme mon oncle l'avait dit la veille, il m'avait appris beaucoup de choses. Il avait étudié au collège irlandais de Rome et il m'avait appris à prononcer correctement le latin. Il m'avait raconté des histoires à propos des catacombes et à propos de Napoléon Bonaparte, et il m'avait expliqué la signification des différentes cérémonies de messe et des différents vêtements portés par le prêtre. Parfois il s'était amusé à me poser des questions difficiles, me demandant ce que quelqu'un devrait faire dans certaines circonstances, ou bien si tel et tel péché était mortel ou véniel, ou une simple imperfection. Ces questions me montraient à quel point certains sacrements de l'Église, que j'avais toujours considérés comme des actions simples, se révélaient complexes et mystérieuses. Les devoirs du prêtre lors de l'Eucharistie, ou envers le secret du confessionnal, semblaient si graves que je me demandais comment quiconque avait jamais eu le courage de les endosser. Et je ne fus pas surpris quand il me dit que les pères de l'Église avaient écrit des livres aussi épais que l'annuaire téléphonique et imprimés aussi petits que les mentions légales dans les journaux pour élucider ces questions épineuses. Souvent, quand je pensais à cela, je ne savais que répondre, ou bien je ne pouvais donner qu'une réponse très bête et hésitante, à laquelle il avait l'habitude de répondre par un sourire et un hochement de tête répété. Parfois il me faisait dire les réponses de la messe qu'il m'avait fait apprendre par cœur, et, tandis que je récitais, il souriait pensivement et hochait la tête, prenant çà et là d'énormes pincées de tabac à priser, alternativement dans chaque narine. Quand il souriait, il découvrait ses grosses dents décolorées et laissait pendre sa langue sur la lèvre inférieure, une habitude qui m'avait mis mal à l'aise au début, avant que je le connusse mieux. Tandis que je marchais sous le soleil, je me souvenais des mots du vieux Cotter, et j'essayais de me souvenir de ce qui était arrivé après, dans le rêve. Je me souvins que j'avais remarqué de longs rideaux de velours et une lampe oscillante d'une facture ancienne. J'avais l'impression d'avoir été très loin, dans un pays où les coutumes étaient étranges,
En Perse, pensais-je. Mais je ne pouvais me rappeler la fin du rêve. Dans la soirée, ma tante m'emmena avec elle pour visiter la maison en deuil. C'était après le coucher du soleil, mais les fenêtres des maisons qui étaient tournées vers l'ouest réfléchissaient l'or fauve d'un vaste banc de nuages. Nanny nous reçut dans le hall, et comme il eût été inconvenant de crier pour s'adresser à elle, ma tante se contenta de lui serrer les mains. La vieille femme désigna l'étage d'un air interrogatif, et comme ma tante acquiesçait, elle se mit en devoir de grimper l'étroit escalier devant nous, sa tête penchée dépassant à peine du niveau de la rampe. Quand elle arriva sur le palier, elle s'arrêta et nous indiqua la porte de la chambre du mort. Ma tante entra, et la vieille femme, voyant que j'hésitais à la suivre, recommença à me faire signe d'avancer, de manière répétée, avec la main. J'entrai sur la pointe des pieds. La pièce, à travers la dentelle du store, était inondée d'une lumière dorée de crépuscule, au milieu de laquelle les bougies semblaient des flammes pâles et fines. Il avait été mis en bière. Nanny prit l'initiative et nous nous agenouillâmes tous les trois au pied du lit. Je fis semblant de prier, mais je ne parvenais pas à garder la tête claire, car les murmures de la vieille femme me distrayaient. Je remarquai que sa jupe était mal attachée derrière et que les talons de ses chaussons étaient usés du même côté. Il me vint l'idée absurde que le vieux prêtre était en train de sourire, allongé dans son cercueil. Mais non. Quand nous nous levâmes et passâmes à la tête du lit, je vis qu'il n'était pas en train de sourire. Il gisait là, solennel et terreux, vêtu comme pour l'autel, ses larges mains tenant tranquillement un calice. Son visage était terreux, gris et massif, avec des narines noires, caverneuses, entourées d'un maigre poil blanc. Il y avait une odeur lourde dans la chambre, les fleurs. Nous nous signâmes et partîmes. Dans la petite pièce du bas, nous trouvâmes Elisa, assise, immobile dans son fauteuil. Je me faufilai jusqu'à ma chaise habituelle, dans le coin, tandis que Nanny se dirigeait vers le buffet et apportait une carafe de sherry et des verres à pied. Ensuite, à la demande de sa sœur, elle remplit les verres de sherry et nous les passa. Elle me pressa de prendre également des crackers, mais je déclinai son offre de peur de faire trop de bruit en les mangeant. Elle avait l'air quelque peu déçue que je refuse et s'en alla doucement vers le sofa où elle s'assit derrière sa sœur. Personne ne parlait, nous regardions tous l'âtre vide. Ma tante attendit qu'Elisa pousse un soupir et dit « Ah, eh bien, il s'est en allé pour un monde meilleur. » Elisa soupira à nouveau et pencha la tête en signe d'assentiment. Ma tante toucha du doigt le pied de son verre à vin avant de siroter un peu. « Est-ce qu'il est... paisiblement ?» demanda-t-elle. « Oh oui, très paisiblement, madame, » dit Elisa. On n'aurait pas pu dire quand il a rendu son dernier soupir. Il a eu une belle mort, Dieu soit loué. Et tout... Le père O'Rourke était avec lui mardi et lui a donné l'onction et l'a préparé et tout. Il savait alors. Il était tout à fait résigné. Il a l'air très résigné, dit ma tante. C'est ce qu'a dit la femme que nous avons appelée pour sa toilette. Elle a dit qu'il avait l'air de dormir, qu'il était paisible et résigné. Personne n'aurait pensé qu'il ferait un aussi beau cadavre. « Oui, c'est vrai, » dit ma tante. Elle but encore un peu dans son verre et dit « Eh bien, Miss Flynn, au moins cela doit être un grand réconfort pour vous de savoir que vous avez tout fait pour lui. Vous avez toutes les deux été très bonnes pour lui, je dois le dire. » Elisa lissa sa robe sur ses genoux. « Ah, pauvre James, » dit-elle. « Dieu sait que nous avons fait ce que nous pouvions, aussi pauvres que nous fûmes. » Nous n'aurions pas voulu qu'il manque de quoi que ce soit tant qu'il était là. » Nanny avait reposé sa tête contre le dossier du sofa et semblait sur le point de s'endormir. « Cette pauvre Nanny, » dit Elisa, « elle est épuisée. Avec tout le travail que nous avons eu, elle et moi, pour trouver la femme pour sa toilette et ensuite pour le disposer, et puis le cercueil, et enfin tous les arrangements pour la messe à la chapelle. S'il n'y avait pas eu le père O'Rourke, je ne sais pas comment nous aurions fait. » C'est lui qui nous a apporté toutes les fleurs et les deux candélabres, qu'il a pris à la chapelle, et qui a écrit l'avis d'obsèques pour le Freeman's General, et qui a pris en charge tous les papiers pour le cimetière et pour l'assurance de ce pauvre James. C'était très gentil de sa part, dit ma tante. Elisa ferma les yeux et hocha lentement la tête. Ah, il n'y a rien de tel que les vieux amis, dit-elle.
Une fois que tout est consommé, il n'y a plus qu'à eux qu'un corps peut se fier.
Pour sûr, c'est vrai, dit ma tante. Et je suis sûre que maintenant qu'il est monté au ciel, il n'oubliera pas toute votre bonté envers lui.
Ah, pauvre James, dit Elisa. Il n'était pas très gênant. Vous ne l'entendiez pas plus dans la maison de son vivant. Et pourtant, même si je sais bien qu'il est parti et tout ça...
C'est lorsque tout sera fini qu'il va vous manquer, dit ma tante.
Je sais, dit Elisa. Je ne lui apporterai plus son bol de bouillon de bœuf.
Et vous, madame, vous ne lui enverrez plus son tabac à priser.
Ah, pauvre James.
Elle s'arrêta comme si elle entrait en communion avec le passé, puis elle dit finement.
Je vous le dis, j'ai remarqué que quelque chose clochait chez lui dernièrement. Quand je lui apportais sa soupe, je le trouvais avec son bréviaire par terre, à demi couché sur son fauteuil et la bouche ouverte.
Elle mit un doigt contre son nez et fronça ses sourcils. Puis elle continua.
Malgré tout, il ne cessait de répéter qu'avant la fin de l'été, il aimerait sortir un jour de soleil pour revoir la vieille maison où nous sommes nés, dans Irish Town, et qu'il aimerait nous emmener, Nanny et moi, avec lui. Si nous pouvions louer à la journée, pas trop cher, l'un de ces attelages modernes, silencieux, dont le père O'Rourke lui avait parlé, ceux avec des roues rhumatiques, chez Johnny Rush, un dimanche après-midi, tous les trois. Il avait l'esprit fixé là-dessus. Pauvre James.
Dieu ait pitié de son âme, dit ma tante.
Elisa prit son mouchoir et essuya ses yeux. Puis elle le rangea dans sa poche et regarda la grille de l'âtre vide pendant un moment sans parler.
« Il était toujours trop scrupuleux, » dit-elle. « Ses devoirs de prêtre étaient trop lourds pour lui. Et alors sa vie était, pour ainsi dire, barrée par une croix. »«
Oui, » dit ma tante, « c'était un homme déçu, cela se voyait. »
Le silence prit possession de la petite pièce, et à sa faveur je m'approchai de la table et goûtai mon chéri, puis retournai doucement à ma chaise dans le coin. Elisa semblait être tombée dans une rêverie profonde. Nous attendîmes respectueusement qu'elle rompe le silence, et après une longue pause, elle dit lentement.
« Ce calice qu'il a cassé, c'est par ça que tout a commencé. Bien sûr, ils ont dit que ce n'était pas grave, puisqu'il n'y avait rien à l'intérieur, je veux dire. Mais quand même, ils ont dit que c'était de la faute de l'enfant de cœur. Mais ce pauvre James était si nerveux, Dieu l'ait en sa miséricorde.
« Et c'était cela ?» dit ma tante. « J'ai entendu quelque chose. »
Elisa hocha la tête.
« Cela a affecté son esprit, » dit-elle. « Après cela, il a commencé à se morfondre, à parler quand il n'y avait personne, et à marcher tout seul. Et une nuit qu'il était appelé pour une mission sacerdotale, ils n'ont pu le trouver nulle part au presbytère. Ils ont cherché partout, et il n'y avait pas le moindre signe de lui, nulle part. Alors le curé a suggéré d'essayer à la chapelle. » Alors ils ont pris les clés et ouvert la chapelle, et le curé et le père O'Rourke et un autre prêtre qui était là ont amené de la lumière pour le chercher. Eh bien, le croirez-vous, c'est là qu'ils l'ont trouvé, assis tout seul dans le noir de son confessionnal, parfaitement réveillé et en train de rire doucement pour lui-même.
Elle s'arrêta soudain comme pour écouter. Moi aussi je tendis l'oreille, mais il n'y avait aucun son dans la maison. Et je savais que le vieux prêtre gisait immobile dans son cercueil, puisque nous venions de le voir, solennel et terreux dans la mort, un calice vide sur sa poitrine.
Elisa reprit. Parfaitement réveillé et en train de rire pour lui-même. Alors évidemment, quand ils ont vu ça, ça leur a fait dire que quelque chose n'allait pas chez lui.